La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Alors l'adage nous dit, le sexe c'est comme le bon vin, ça devient meilleur avec l'âge. Pourquoi dès lors la sexualité des aînés reste-t-elle toujours aussi taboue? C'est la question que l'on va se poser dans notre émission ce soir.
Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin.
Les études le montrent, plus de 60% des personnes de 80 ans et plus disent avoir des relations sexuelles au moins une fois par mois. Nos aînés ont donc une sexualité encore active, mais pourquoi cela nous rend-il encore mal à l'aise de l'envisager, d'en parler? Et comment cela se passe-t-il en maison-entrepôt où le manque d'intimité est souvent dénoncé? On va en discuter avec nos trois invités ce soir. Alors j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Esther Hirsch, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin, sexologue, clinicienne, sexo-analyste et notamment consultante aux hôpitaux Erasme et Brugmann à Bruxelles. À vos côtés, Sarah Melika, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin, sexologue, clinicienne au CHR de Namur et à Louvain-la-Neuve. Vous êtes aussi régulièrement appelée par des maisons de repos qui s'interrogent sur la sexualité de leurs résidents. Et enfin, Pascal de Suter, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en psychologie, sexologue, professeur en sexologie clinique à l'Université catholique de Louvain et vous venez de publier un livre qui s'intitule « 12 lois universelles du bonheur amoureux et sexuel », tout en programme donc, un livre qui vient de sortir aux éditions Lafon. Alors, cassons un premier tabou, une première idée reçue pour démarrer. Faire l'amour n'est pas contre-indiqué, même quand on a 70, 80, 90 ans. Madame Hirsch, peut-être ?
C'est certainement pas contre-indiqué. Et d'ailleurs, certaines études prouvent que le maintien d'une sexualité tardive prolonge la vie de 5 à 10 ans, par exemple.
D'accord. Pascal de Suter, vous confirmez ?
Tout à fait, ça a été étudié. Il y a de nombreuses études qui montrent et démontrent qu'effectivement, maintenir une vie sexuelle active plus tard contribue à la bonne santé. C'était non seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale. Donc, quelque part, la sexualité, c'est bon pour la santé, et c'est bon pour la santé même quand on est âgé.
Mais en même temps, le corps change, évidemment, avec la vieillesse. Du coup, je suppose que la sexualité va aussi changer, elle prend des formes différentes. Madame Hirsch ?
Oui, la sexualité, comme toutes les autres fonctions de l'organisme, est affectée, plus ou moins tôt selon les individus, par le processus du vieillissement. Ça veut dire qu'il y a une évolution physiologique de la sexualité avec l'âge, liée en grande partie aux perturbations hormonales de la ménopause et de l'andropause. Et donc il y a une évolution purement physiologique. Par contre, ce qui est très important de dire, c'est que le plaisir, la satisfaction, le soulagement des tensions sexuelles par l'orgasme, par exemple, sont tout à fait préservés. Et que les personnes qui s'adaptent à cette évolution physiologique, dans le fond, ne font même pas la différence. Et je dirais même que, avec l'âge, la qualité peut remplacer utilement la quantité, la performance.
Oui. Et Pascal de Suter, est-ce que, on dit que la sexualité change, c'est-à-dire qu'elle prend des formes qu'on n'a pas connues nécessairement avant, on développe d'autres formes ou pas nécessairement, ou ça dépend des couples aussi, j'imagine. Mais...
Bien sûr, je pense que la meilleure comparaison, c'est comme le sport. Le sport n'est pas réservé aux jeunes, mais c'est sûr que des activités sportives, je sais pas moi, de la gymnastique aux barres parallèles et aux anneaux, on le fait peut-être plutôt quand on est jeune et moins quand on est âgé. Mais tout comme le sport, qu'il est bon de maintenir jusqu'à un âge très avancé, donc il faut faire du sport jusqu'à sa mort, je pense, eh bien la sexualité, c'est la même chose, il suffit simplement de l'adapter.
Mais qu'est-ce qui fait du coup, Sarah Melika, que ça reste encore aussi tabou? On a l'impression que, à la retraite, finalement, la vie active s'arrête et la vie sexuelle aussi.
Mais oui, il y a d'abord un tabou par rapport à la sexualité en général. Hein. Alors, il y a un tabou par rapport à la sexualité chez les seniors, en plus, parce que après l'androménopause, la fonction reproductive forcément est éteinte et c'est difficile de concevoir qu'on puisse avoir une activité plaisante pour le plaisir. Voilà. Mmh. Et donc ça c'est pour moi je pense toujours quelque chose qui existe. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de la méconnaissance de la sexualité. Donc il y a beaucoup de jeunes, de plus jeunes qui pensent, parce qu'ils connaissent pas la sexualité, l'évolution de la sexualité, que même à la limite ça s'arrête d'une façon très nette. on a 40 ans, ça s'arrête d'une façon très nette. On a 50 ans, ça s'arrêterait d'une façon très nette. Mais voilà, ça c'est lié à la méconnaissance. Il y a aussi l'idée, je pense que, on se dit un peu dans la société, hein, à la retraite, quand on prend sa retraite professionnelle, ben, c'est sage, mais c'est tout à fait idéalisé de penser que c'est la retraite dans tous les domaines, et dans la sexualité aussi. Et on voit un peu ça comme ça, mais c'est pas le cas. Ça, le paradoxe, c'est que c'est pas le cas. Il y a un tabou, mais la sexualité des aînés existe bel et bien.
Mais par exemple, souvent quand on voit deux personnes âgées qui sont une à côté de l'autre, qui se tiennent la main sur un banc, on va dire c'est mignon, ça, on trouve ça mignon. Mais imaginez ces personnes âgées ensuite dans la chambre à coucher, ça on l'imagine pas. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, peut-être Pascal de Sitter?
Ben, parce que d'abord il y a quand même encore dans notre société ce que j'appelle le jeunisme, c'est-à-dire qu'on met en valeur la beauté de la jeunesse et on associe beauté et sexualité. Et donc si une personne plus âgée, selon des critères tout à fait évidemment aléatoires de beauté actuelle, est moins belle physiquement, on imagine difficilement qu'elle peut avoir la sexualité. Et puis je pense qu'il faut quand même pas l'oublier, il y a quand même encore une influence religieuse. C'est-à-dire que même pour de nombreux laïcs, et je pense, l'émission, je pense que c'est important d'en parler, ont intégré ces valeurs que sexualité est liée à reproduction. Parce que pour beaucoup de religions, on lit sexualité, on ne peut faire l'amour que pour se reproduire. Il y a quand même encore cette croyance qui est forte. Et donc, encore aujourd'hui, inconsciemment, de nombreuses personnes se disent, voilà, tant qu'on est jeune et en état de procréer, c'est normal d'avoir la sexualité. Quand il n'y a vraiment plus aucune finalité procréative, eh bien, c'est quelque part un petit peu suspect. Et même si beaucoup de gens rationnellement disent non, je ne pense pas ça, eh bien ils l'ont intégré. Et ça me surprend toujours combien des personnes qui se disent laïques, qui se disent complètement athées, continuent à véhiculer certaines croyances religieuses, notamment sur la monogamie, notamment sur une série de comportements qui sont dictés par la religion. Et c'est intéressant de voir que plein de gens comme ça continuent à penser que sexualité devrait être liée à la jeunesse, à un projet de vie, au couple monogame, à la reproduction. Et je pense que c'est un des freins par rapport à la sexualité des personnes plus âgées.
Et ce serait ancré vraiment dans cette tradition judéo-chrétienne, Esther Hirsch.
Oui, je crois que la révolution sexuelle des 70s a été trop brève que pour effacer des siècles de répression et d'obscurantisme.
Et pourtant, les personnes âgées d'aujourd'hui, ceux qui ont 60, 70 ans aujourd'hui, sont justement ceux de la génération de mai 68, ceux de la libération sexuelle. Donc du coup, est-ce qu'on peut penser qu'il y a une évolution qui va arriver justement parce que ces personnes sont aujourd'hui à l'âge de
60? Oui, écoutez, il y a une évolution. Il y a une évolution. C'est vrai qu'il y a une évolution. On est passé du tout est interdit au 19e siècle à tout est permis en mai 68. Bon, aujourd'hui, tout semble obligatoire, comme si une sexualité au top était le critère de bonheur actuel, avec toute la honte et la culpabilité si tel n'est pas le cas. Mais ce qu'on a vu dans les études, notamment sur le comportement sexuel des Français, il y a eu 3 études de grande envergure, en 72 au moment de la généralisation de la contraception, en 92 au moment de l'épidémie du sida, et puis en 2005-2006. Et dans l'évolution majeure, d'une part, c'est le rapprochement de la sexualité des hommes et des femmes, mais aussi des jeunes et des moins jeunes. Les moins jeunes qui restent jeunes plus longtemps, en meilleure forme, avec une bonne retraite, courtisés par les clubs de rencontres et les clubs de vacances, souhaitent, et bénéficiaires aussi justement de cette révolution sexuelle, souhaitent maintenir une vie affective et sexuelle très longtemps, et le souhaitent souvent de toutes leurs forces. Une sorte de on n'a plus de temps à perdre. Et notamment les femmes bénéficiaires sont plus capables de justement différencier la sexualité reproductive et la sexualité récréative.
Je suis assez d'accord avec le docteur Hirsch dans le sens où effectivement il y a vraiment une continuité. Et vous parliez de cette génération de mai 68. Eh bien, je pense que eux justement maintiennent une sexualité active et sont assez à l'aise avec leur corps, mais c'est parfois les nouvelles générations qui viennent avec ce que j'appelle le néo-puritanisme. Je pense qu'aujourd'hui, on constate un retour d'une certaine forme de puritanisme dans la société occidentale. Retour qui est lié, je pense, à un phénomène aussi religieux, mais retour aussi peut-être à un un retour de balancier à une époque où il y avait plus de liberté et d'ouverture sur le plan de la sexualité, notamment de la nudité. Et je pense que c'est important d'observer qu'aujourd'hui, il y a ce retour du puritanisme et qui impacte aussi l'attitude qu'on a vis-à-vis des personnes âgées. Il y a beaucoup de personnes âgées qui aimeraient bien avoir une vie sexuelle active, mais quand même, dans les maisons de retraite, il y a encore quand même des blocages du personnel soignant, des familles parfois. Il y a les enfants ou les petits-enfants qui n'aiment pas, ne veulent pas que leurs grands-parents aient une vie sexuelle active. Donc le blocage ne vient pas tellement des personnes âgées elles-mêmes, qui parfois sont très ouvertes, mais vient parfois de l'entourage et de personnes plus jeunes.
Oui, Sarah Lamnique. On parlera un peu plus en détail des maisons de repos, mais c'est vrai qu'en préparant l'émission, vous me disiez qu'effectivement, souvent, il y avait un vrai blocage au niveau des familles qui avaient du mal à envisager que leurs parents aient une sexualité, notamment en maisons de repos, mais par ailleurs aussi.
Oui, tout à fait. Donc, pour rebondir sur ce que disait Pascal, moi, je suis appelée parfois pour un monsieur, par exemple, de 90 ans, qui a encore, évidemment, libido, désir, pulsion, qui n'a pas la possibilité d'avoir une partenaire au sein de la maison de repos. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a les mains un peu baladeuses par rapport au personnel soignant. Et puis, alors, on m'appelle en me disant, il faut faire quelque chose, il faut lui donner un médicament, antitestostérone, pour calmer un peu cette libido qui est... Mais, et donc, ça va pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. c'est pas du tout, éthique, et puis ce sont des médicaments qui ont plein d'effets secondaires, évidemment. Donc il faut trouver des alternatives de voilà comment on peut faire en sorte pour que dans les maisons de repos il y ait une possibilité de vie affective et sexuelle, et voilà comment voir comment on peut adapter. Et puis il y a aussi voilà un autre exemple, les enfants, ça c'est pour revenir à la problématique familiale, qui disent clairement, mais moi je souhaite pas que ma mère, qui est veuve, puisse avoir de nouveau un petit ami, et puis éventuellement elle va dépenser l'héritage, etc. C'est ce qu'on entend. Moi c'est ce que j'entends. Et donc il faut faire quelque chose pour que surtout elle reste bien toute seule et bien calme, et isolée même à la limite.
Oui, je lisais dans l'étude dont je parlais au début, où on dit qu'il y a plus de 60% des personnes de 80 ans et plus qui disent avoir des relations sexuelles au moins une fois par mois. Si maintenant on regarde
même
les personnes,
célibataires.
Oui, si on regarde les personnes qui sont en maison de repos, là, souvent le chiffre, enfin dans cette étude, le chiffre passait à 8%. C'est-à-dire que donc en maison de repos, quoi, on est bridé, on ne peut plus parce qu'on est en maison de repos, on n'a plus droit à une sexualité.
Mais il n'y a pas grand-chose qui est, il y a en fait vraiment pas grand-chose qui est mis en place pour qu'on ait la possibilité de s'épanouir sexuellement en maison de repos. Et alors, moi, je voudrais mettre en avant aussi le fait que ce qui est injuste quelque part, c'est qu'il y a une discrimination en fonction du milieu socio-économique et de ses revenus. Il y a des maisons de repos où on a, vous savez, l'infrastructure est magnifique. Ce sont un peu comme des hôtels avec piscine, etc. Et là, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Et puis, il y a les maisons de repos qui fonctionnent encore à l'ancienne, où chacun est confiné dans sa chambre ou sur son fauteuil roulant dans le réfectoire et on bouge pas. Bon, alors, il faut mettre en route toute une série de choses, peut-être qu'il faut faire.
Oui, il y aura une discrimination, on va dire, socio-économique aussi au niveau de la sexualité.
Oui,
c'est-à-dire
que
dans certaines maisons de repos, on donne accès à la sexualité, dans d'autres, pas.
Oui, et donc, comme pour la santé physique, mentale, etc., voilà, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Et donc, voilà, plus on a de possibilités, de revenus, et meilleure sera la santé sexuelle. Ça, c'est comme ça maintenant, oui, je pense.
Le personnel soignant dans les maisons de repos dit souvent qu'il est mal à l'aise par rapport justement à cette sexualité des aînés. Ils disent, oui, voilà, on rentre dans la chambre et on retrouve monsieur de la chambre 63 avec madame de la chambre 64. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut encore expliquer ce malaise? Il n'y a pas encore vraiment de formation du personnel soignant. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Peut-être Pascal de Sutter ou madame Mélica?
Moi, je veux bien. Oui, ils sont formés. Ils se forment vraiment, manifestement. Il y a vraiment beaucoup de formation pour le personnel soignant. Et il y a cette discordance, la mise en pratique. Moi, je trouve qu'elle est extrêmement lente ou inexistante. C'est comme si je me dis parfois, est-ce que si on imposait certaines, comme dans l'alimentation des seniors, on impose certaines normes, est-ce que si en imposant certaines ouvertures, certaines possibilités, par exemple, on met des lits doubles, on essaie de recréer une intimité, la chambre doit pouvoir se fermer, etc. On favorise le relationnel pour qu'on puisse justement rencontrer quelqu'un. Est-ce que il devrait pas y avoir aussi peut-être des normes ou faire en sorte que ça soit presque imposé pour que ce soit accessible à tout le monde, justement?
J'ai constaté de belles histoires d'amour hein, qui pouvaient naître dans ces maisons de repos, dans ma pratique de médecine générale. La sexualité est là et qu'elle se maintient. Et je vois des personnes âgées qui maintiennent un lien avec la sexualité par le fantasme, par exemple, tout simplement.
Hein. Oui, c'est là qu'on disait tout à l'heure qu'il y a différentes formes de sexualité. Il peut y avoir les fantasmes, il peut y avoir...
Mais oui, la pénétration, c'est pas toute la sexualité. Il y a une évolution de la sexualité avec l'âge, mais elle est faite d'amour, d'expression de sentiments, de tendresse, de fantasmes partagés, toutes choses qui ne s'atrophient jamais avec l'âge.
Pour ça, il faut quand même que... Je pense que... Pour moi, le problème fondamental, c'est la vision de la sexualité de manière générale. Encore aujourd'hui, je pense beaucoup de gens, y compris dans les gens bien pensants, parmi les intellectuels, considèrent la sexualité comme quelque chose quand même d'assez négatif, de sale. Par exemple, régulièrement, on va dire, attention, il y a trop de sexualité et de violence à la télévision. On met ensemble quelque chose de magnifique, de beau, qui est la sexualité, avec quelque chose d'atroce, qui est la violence. Et je crois que tant qu'on lit ça, et je pense que c'est en partie lié à des croyances, je pense, religieuses, tant qu'on voit négativement la sexualité. Quand on dit, par exemple, que les émissions qui parlent sexualité, ça doit être tard le soir à la télévision ou tard à la radio. On a la chance ici, il est 20h et quelques, donc on peut en parler. Eh bien, je pense, tant qu'on a cette mentalité, les choses ne vont pas bouger. Or, il faut bien reconnaître que si, dans certains milieux catholiques, il y a vraiment une évolution considérable de voir la sexualité de manière beaucoup plus positive, de voir la sexualité de manière beaucoup plus joyeuse, quelque chose de beau en soi, il y a quand même d'autres religions qui deviennent de plus en plus puritaines, alors qu'elles ont une histoire beaucoup plus ouverte, qui deviennent aujourd'hui très puritaines. Et ce nouveau puritanisme, pour moi, est un réel danger parce que ça entraîne vraiment une répression par rapport à l'expression de la sexualité. Et je pense que si une partie des gens ont cette vision négative de la sexualité des personnes âgées, c'est en partie lié à ça. C'est en partie lié que le sexe, c'est quand même sale. Des petits vieux qui se tripotent, c'est sale. C'est ça l'idée qu'on doit vraiment chasser, c'est de dire non, que des personnes âgées aient encore des pulsions, qu'ils aient des désirs, peu importe leur âge, qu'effectivement ils aient des envies de se faire toucher, d'être caressés, d'avoir la sexualité, on devrait trouver ça magnifique. Or, beaucoup de gens, et parfois pour des mauvaises raisons, et vous le disiez, Dr Melka, c'est qu'effectivement, parfois les familles, pour des raisons d'héritage ou autres, veulent absolument que leurs personnes âgées deviennent des abstinents totales. Et c'est ça le vrai problème, c'est que je pense qu'il y a vraiment tout un processus d'éducation auquel mes collègues et moi-même participons, c'est d'éduquer la population que la sexualité entre adultes consentants est quelque chose de magnifique qu'on doit au contraire encourager.
Alors vous êtes toujours dans Libre Ensemble, on parle aujourd'hui de sexualité des aînés, des tabous autour de cette sexualité des aînés et on en parle avec nos trois invités, donc Esther Hirsch, médecin, sexologue, clinicienne, Sarah Melika, médecin, sexologue également et Pascal De Suter, donc docteur en psychologie, sexologue et auteur du livre Les 12 lois universelles du bonheur amoureux et sexuel qui vient de sortir aux éditions Lafon. Alors je voudrais qu'on revienne justement sur ce changement de mentalité, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui arriver à changer ses mentalités. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation? Est-ce que on a des trucs et astuces qui pourraient être donnés pour améliorer cette situation? Esther Hirsch, peut-être?
Je crois qu'il y a une information à donner. Hein, une information d'abord aux personnes qui avancent en âge sur l'évolution physiologique de la sexualité avec l'âge et comment s'y adapter. Beaucoup de gens sont dans l'ignorance totale. Que les personnes plus jeunes n'est pas ce regard condescendant vis-à-vis de la sexualité des personnes âgées. Moi, j'ai une dame qui m'a dit « Oui, si je me mets un rouge à lèvres, eh ben, c'est encore pire. Je dois faire face au regard tantôt amusé, tantôt protecteur des 30-40 » qui signifiait qu'elle est confrontée à ce regard condescendant des 30-40 par rapport à la sexualité des 60-70. Et d'avoir c'est une information à donner pour les personnes plus âgées, mais aussi aux plus jeunes qui arriveront un jour aussi à 60-70 ans.
On oublie, hein.
Et que c'est rassurant, je dirais, de savoir que la vie continue.
Oui, et que ça ne s'arrête pas, effectivement.
C'est de l'ordre de la vie.
Oui. Moi, je pense que ça pourrait être intéressant de rappeler que la santé en général, c'est physique, mentale et sexuelle aussi. Hein, ça, c'est dans la charte de l'OMS hein, qu'on a tous droit à une santé sexuelle. Et rappeler que... Et peut-être, je ne sais pas s'il faut rappeler ou si ça doit être simplement expliqué que la sexualité et avoir une belle sexualité, une sexualité accomplie, ça peut être une valeur en soi. C'est jamais valorisé. Hein. On dira d'une personne âgée, c'est magnifique, elle a fait 4 marathons dans l'année. C'est magnifique, il a 90 ans. Oui, il est repassé à l'université, il a repassé un doctorat. Et on va pas dire, oh, c'est magnifique, il a une vie sexuelle, une santé sexuelle encore géniale. C'est vrai, hein.
Au contraire, on l'a dit négativement. On va dire, c'est quoi ce vieux vicelard?
Oui, voilà.
Hein, ou bien c'est quoi cette vieille cochonne? Non, mais c'est ce qu'on dit.
Oui, mais il y a des personnes, c'est un petit peu dans leur tête, oh là là, j'ai honte, ou bien vous n'avez pas honte à votre âge.
Tout à fait.
Donc,
on leur met ça dans la tête, et je pense qu'il y a des personnes parfois âgées qui disent, mais non, écoutez, j'ai plus l'âge. Il y a une espèce de gêne, parfois, chez certaines personnes âgées, de continuer à vouloir. Ou un homme âgé qui dit, tiens, j'aimerais bien encore aller sur Internet, faire des rencontres. On va dire, mais enfin, c'est plus de ton âge, tu ne vas quand même pas faire ce genre de choses, etc. Donc, vraiment, il y a aujourd'hui, je trouve, une véritable répression de la sexualité des personnes âgées. C'est pas dit officiellement, mais il y a finalement, vous savez, certains tabous, c'est le tabou qu'on intègre dans le cerveau des gens. C'est pas tellement qu'il y a des interdits, évidemment la loi n'interdit pas à des personnes âgées de faire l'amour, mais on leur met ça dans la tête. Et c'est ça, je pense, qui doit vraiment changer. Et c'est ça, je pense, que nous devons vraiment diffuser ce message, et je trouve que c'est bien qu'on peut en parler ce soir, de dire, eh bien non, ce n'est ni sale, ni malsain que des personnes âgées aient envie d'avoir une vie sexuelle. C'est quelque chose, au contraire, de magnifique qui les maintient en bonne santé. Mais il y a beaucoup de fausses croyances. Par exemple, l'idée que les femmes qui seraient ménopausées n'auraient plus de lubrification. Ce n'est pas vrai. Oui, certaines, ça peut être affecté par la ménopause. Mais d'abord, il y a des moyens de remédier à cela. Il y a toute une série de traitements médicaux. Mes collègues médecins pourront vous le dire. Mais en plus, souvent, c'est tout simplement parce que le partenaire ne s'y prend pas bien, qu'il zappe les préliminaires, qu'il passe à côté. Mais on peut tout à fait avoir une lubrification qui se maintient à un âge avancé. Les hommes peuvent avoir des érections à des âges avancés. D'ailleurs, il existe des médicaments qui aident pour ça. Et heureusement, et ça permet de vraiment de maintenir pas juste une sexualité affectueuse avec des petites caresses sur les épaules, mais une vraie sexualité active à un âge avancé. Et en même temps que je dis ça, personne n'est obligé. Chacun est libre de dire « moi, je ne souhaite plus être actif sexuellement et je respecte ça profondément » quand c'est un choix en pleine conscience qu'une personne fait. Si une personne dit « moi, j'ai plus envie d'avoir une vie sexuelle active, je respecte ça. » Mais je trouve ça triste quand des gens disent « j'aimerais encore bien, mais j'ose plus, ou c'est peut-être plus de mon âge, ou c'est pas bien, ou ma famille ne voudrait pas, ou bien j'ai peur de passer pour ceci, pour cela. » Ça, je trouve triste.
Est-ce que vous... Oui, Madame Hirsch ?
Oui, j'ai même connu un couple qui a arrêté volontairement toute sexualité pour se conformer à une image qu'il pensait normale, victime de cette erreur culturelle de croire que la sexualité à la retraite doit s'arrêter.
Ouais. Est-ce que vous avez dans vos consultations de plus en plus de personnes âgées qui viennent justement vous poser des questions là-dessus
Oui. Moi, j'ai un monsieur 86 ans qui est venu me voir il n'y a pas si longtemps, et notamment suite à une émission peut-être comme celle-ci, et qui se posait des questions et qui avait encore régulièrement une activité sexuelle payante parce qu'il n'a pas de partenaire et que mais qu'il assume. Très très bien et il en parlait il m'en parlait tout à fait normalement.
Oui, docteur Melika aussi.
Oui, tout à fait. Ils sont quand même. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Pascal dans la mesure où c'est un peu comme si les seniors de maintenant sont ceux qui ont vécu la mai 68, etc. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est si en fait qu'on ait une certaine agressivité et ostracisme par rapport à la sexualité des seniors, c'est pas parce que, en tout cas certains jeunes avec un puritanisme qui revient, en fait, ont un problème avec leur sexualité à eux. Ils aimeraient bien qu'à certains moments ça s'arrête et c'est plus simple à régler aussi. Donc une espèce de forme d'abstinence qu'on voudrait voir et qu'on voudrait imposer à des seniors qui en fait ont encore envie et qui viennent dans les consultations, qui cherchent des solutions, qui demandent comment on peut faire pour un problème d'érection, j'ai un problème avec mon image corporelle, etc. Comment je peux faire?
Et quand vous êtes appelée, par exemple, Madame Melika, en maison de repos, du coup, qu'est-ce que vous pouvez prodiguer comme conseil, que ce soit au personnel soignant, aux résidents aussi, est-ce que vous avez des conseils à prodiguer pour améliorer cette situation?
Alors, je vois le patient et puis je vois l'équipe. Hein. Et j'essaie de voir s'il y a d'abord une concordance entre ce que chacun souhaite. Et pour l'équipe de la maison de repos, on essaie de voir quand même, de trouver des arrangements, hein, parce que l'histoire des médicaments, là, c'était quand même un peu, c'était pas nécessaire. On a essayé de voir comment on pouvait faire sa toilette, comment on pouvait faire pour justement qu'il y ait plus d'intimité, qu'il puisse rencontrer des gens. C'était des toutes jeunes aides-soignantes, je pense, qui avaient ce problème. C'est pas du tout du harcèlement, hein. C'est y manifester un désir et une libido, c'est tout. Et comment on pouvait faire
C'est une question aussi d'énergie, finalement.
Oui, et c'était beau. Moi, on n'avait pas envie en même temps, parce qu'il y avait le médecin généraliste, plus moi qui étais comme médecin sexologue. On n'avait pas envie non plus de complètement l'assommer avec des médicaments qui entraînent des dépressions, enfin qui ont plein d'autres effets secondaires, quoi, en fait.
Vous disiez
parce que c'est vraiment le choix de chacun, c'est une question d'énergie. Comme je l'ai exprimé avec ma collègue, je veux quand même préciser que le livre Les 12 lois universelles du bonheur amoureux sexuel a été publié avec Julie Duchemin. On l'a écrit à deux, hein, elle a écrit autant que moi. Et donc, c'est bien aussi d'avoir la vie d'une femme. Et on explique très bien qu'une de ces lois qui fait que la sexualité fonctionne, c'est la loi de l'énergie. Quelle énergie est-on prête à mettre dans sa vie sexuelle? Et quand on est âgé, on doit peut-être parfois mettre un peu plus d'énergie que quand on est jeune, parce que effectivement, les choses fonctionnent parfois de manière un peu plus difficilement. Et donc, si on met une belle énergie là-dedans, si on y pense, si on se maintient en forme physiquement, si on est séduisant, si on fait des longs préliminaires, si vraiment on met une belle énergie, si on choisit volontairement dire « je souhaite passer une partie de mon temps à la sexualité », eh bien, on peut maintenir une vie sexuelle active très, très tard. Mais c'est un choix, et il faut se dire que quand on fait ce choix, ça ne va pas tomber du ciel. Beaucoup de femmes encore pensent que le désir, comme ça, il tombe du ciel tout court. Non. Si une femme âgée souhaite avoir du désir sexuel et du plaisir sexuel, eh bien, elle doit y penser, elle doit y s'y consacrer, elle doit aménager sa sexualité avec sa réalité de sa santé actuelle. Et si elle met cette énergie, elle peut encore avoir à ce moment-là une très belle récompense et vraiment beaucoup d'épanouissement sexuel.
Oui. Alors, on arrive déjà à la fin de cette émission, mais je voudrais faire un dernier tour de table pour voir si effectivement la sexualité du coup amènera un bien-être à n'importe quel âge et quel type de bien-être est-ce que ça peut amener quand on a plus de 60, 70, 80 ans. Madame Hirsch, peut-être pour commencer, docteur Hirsch.
Mais je pense que la sexualité, on le sait, fait partie donc de la santé d'une part. La fonction crée l'organe aussi. Je crois que si elle est entretenue, la sexualité, elle se maintient très très tard, comme je l'ai dit, jusqu'à la veille de la mort, à la limite, hein, ça peut arriver, et participe au bien-être en général, à la santé, au bien-être affectif aussi. Et comme le disait Pascal, le désir sexuel, il nécessite une sorte d'autorisation personnelle, hein, pour oser, à leur âge, exprimer les désirs qu'on peut avoir.
Un bien-être relationnel aussi peut-être, parce que de Sutter, on se sent mieux avec les autres si on s'accepte, si on a une sexualité épanouie et assumée, en tout cas qu'on en ait une ou pas, en fait, qu'on ait choisi en tout cas.
Bien sûr, bien sûr. Et ce qui est important aussi, et c'est une des lois universelles du bonheur amoureux sexuel, et c'est une loi d'ailleurs qui a été découverte par ma collègue Julie Duchemin, c'est la loi de la prophétie. Si vous prophétisez pour vous-même que vous aurez longtemps une vie sexuelle heureuse et épanouie, eh bien ça peut se produire. Mais si vous prophétisez déjà à l'avance, oh, moi, au-delà de 60 ans, ça sera fini, j'aurai plus du tout la capacité. Eh bien, vous avez de bonnes chances que ça ne se produise pas. Donc, il faut vraiment faire des prophéties à soi-même et à son couple, dire, moi, j'ai envie que dans mon couple, ça dure longtemps. Moi, j'ai envie qu'on reste actif sexuellement. Eh bien, si vous formulez ce genre de pensée, vous avez de bonnes chances que ça se produise.
Docteur Melika, peut-être juste pour clôturer, voilà, quel bien-être. Et même en maison de repos, je sais qu'on a parfois une amélioration de l'atmosphère, on a une atmosphère peut-être plus saine, etc.
Oui,
quand ce genre de.
C'est clair que.
Quand ça se passe bien au niveau sexuel.
Voilà,
aussi.
C'est tout à fait payant.
Quand l'intimité est respectée.
Voilà. Si on maintient la sexualité, hein, ça s'est prouvé, ça améliore les relations sociales, toutes les relations sociales. On satisfait ses besoins émotionnels et physiques, ça c'est quand même important. On se reconnecte avec l'intime. Et donc moi, pour conclure, je voudrais quand même dire, bien sûr que ça existe, comme disait Esther, parfois c'est très très tard, et que pour une bonne partie même des individus, ça peut être meilleur plus tard que plus jeune. Oui,
ouais.
Si on l'a su.
On l'a dit, oui, ça s'améliore, voilà. Avec l'âge, c'est comme le bon vin.
Qu'il faut arrêter d'ostraciser la sexualité des aînés. Et ce serait pas mal aussi de lutter un peu contre cette injustice qui est peut-être en train de s'installer. Ou voilà, quand on est dans un milieu plus compliqué, plus difficile, on a moins de chances d'y arriver.
Bon, ben, en tout cas, si vous souhaitez aller un peu plus loin sur cette thématique, je vous invite à lire le livre donc de Pascal de Sutter, qu'il écrit avec Julie Duchemin, 12 lois universelles du bonheur amoureux et sexuel, donc qui vient de sortir aux éditions Lafon. Je pouvais aussi poursuivre la réflexion en regardant en ligne la conférence que le CAL Namur a consacrée à ce sujet le 20 décembre dernier. Donc, c'est la conférence Jeune ou vieux, vivre sa sexualité à tout âge. Elle a à revoir sur la page Facebook du Centre d'action laïque de Namur. Donc, vous y entendrez plusieurs témoignages, notamment des personnes qui interviennent aussi en maison de repos. En tout cas, merci à tous les trois, donc Pascal de Sutter, Esther Hirsch et Sarah Milika, pour vos interventions. Et on va souhaiter à nos auditeurs une belle sexualité à tous, en tout cas une sexualité choisie,
réfléchie, longtemps.
Et le plus longtemps possible.
Et le plus longtemps possible. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Libre Ensemble. Belle soirée à tous.
En quête de sens
sur la première.